Espace d'une tectonique des plaques.
Une émission mensuelle de Dominique Desmichel, Olivier Lostis et Gabriel Seban.
Une émission qui s'offre à vous pour explorer l'invisible des cohérences.
Et des incohérences.
Là où elles ont matière à trouver leur place.
Une émission qui va vous poser questions, sans s'en vouloir experte.
Surtout quand des lieux communs vous sont assénés.
Colonne vertébrale, si ça se trouve.
Qui vous laisse toute votre tête.
Oui, vraiment.
Sans vous laisser intact, bien sûr.
Une émission au sens non interdit.
Sens moral, bien sûr.
Si on commençait à changer le monde, les amis.
Alors, l'identité a été notre première porte dans le couloir du changer le monde, un peu prétentieux, mais bon, l'utopie ne n'a jamais tué personne. Nous en avions évoqué les processus et les réalités, et aujourd'hui, c'est la porte de l'altérité que nous entr'ouvrons. Alors, toujours altérité pour changer le monde. Cette question de l'altérité touche la philosophie par l'identité, la morale par l'éthique, le droit, la culture par le multiculturalisme, la religion, les sciences de l'homme, de la société par l'économie. Alors, comment rentrer dans un tel débat ? Dominique, qu'est-ce que tu nous conseilles ?
D'abord, je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça, l'utopie est la vérité de demain, pour reprendre ton mot. Hein. Donc, allez, soyons optimistes, hein, et puis espérons que, justement, l'utopie, ça soit pas utopos, qui n'a pas de lieu du tout, mais juste qu'il n'y a pas encore de lieu. Hein. Alors, du côté de l'altérité, en fait, on en discutait un tout petit peu juste avant de commencer l'émission. Et au fond, ce qui me semblait ressortir de nos échanges à tous les trois avant qu'on commence, c'était l'idée qu'on est trois, mais qu'en fait, il y a aussi une sorte d'altérité radicale. Et cette altérité, c'est vous, les auditeurs, au fond. Hein. C'est-à-dire, le point de départ, c'était de se dire... Nous, on est tous les trois, on se connaît un petit peu, pas depuis très très longtemps pour certains. On a envie de discuter sur des thèmes particuliers, mais en fait, il y a un autre. Et cet autre, au fond, c'est vous, les auditeurs. Et alors, on s'est dit que c'était pas inintéressant de poser cette question de l'altérité. Peut-être pas à partir seulement, comme tu viens de le faire dans ton introduction, du champ philosophique, du champ social, du champ relationnel, du champ psychique, par exemple, mais de le partager à partir de notre expérience à tous les trois. Ou au fond, on pourrait se dire que le risque, ce serait qu'on discute bien tous les trois, qu'on soit à peu près d'accord sur certaines choses, que de temps en temps, pour mettre un petit peu de relief, eh bien, on ait des avis différents, parce que de temps en temps, profondément, on vive quelque chose d'une altérité, mais qu'on oublie une autre altérité qui sont vous tous, les auditeurs. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on avait envie aujourd'hui de vous inviter. On ne sait pas trop ce qu'on fait en disant ça, mais on avait envie de vous inviter.
Alors justement, sur ce plan-là et précisément, nous avons créé une boîte mail dont je vous donne les coordonnées. C'est dorsal, sans S, en minuscule RGC collé, comme Radio Grand Ciel, donc dorsal RGC, @gmail.com. Et sur cette boîte mail, vous pourrez laisser les impressions, les commentaires qui nous seront tout à fait précieux et tout à fait utiles pour nous améliorer et pour faire en sorte que l'autre que vous êtes soit présent dans l'émission que nous faisons. Oui, alors, Olivier.
En tout cas, oui, ce que je me dis en parallèle de ce que tu dis, Dominique, c'est le vieil adage qui se ressemble, s'assemble. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça dans ces discussions qu'on avait commencé avant de faire une émission et dont on s'est dit, tiens, ça serait sympa d'en faire une émission. On a quelque chose d'une ressemblance. Et c'est vrai qu'on pourrait trop facilement être d'accord, ou même si on. Comme tu le disais, même si on n'est pas forcément complètement d'accord, disons qu'on pourrait avoir un confort à rester entre nous. Donc, Gabriel, le rappel, on a une adresse internet, dorsalrgc@gmail.com. On va le répéter plusieurs fois pendant toute l'émission, de manière à ce que vous, auditeurs, vous nous disiez ce que vous pensez de ce qu'on raconte, comment vous n'êtes pas d'accord, le cas échéant, de manière à ce qu'on puisse, nous aussi, parce qu'on y a notre intérêt, accepter d'être légèrement altéré par ce que vous pourrez nous écrire, et altéré au point de peut-être pouvoir aussi en faire part dans les émissions qui suivront. Donc on attend vos messages, parce que au fond, pour traiter de la question de l'altérité, je trouve que l'introduction de Dominique est excellente, c'est-à-dire que on pourrait très facilement ne pas la considérer et parler de l'altérité en toute identité, ce qui serait évidemment tout à fait limité.
Alors, est-ce qu'on rentre dans l'altérité par le côté fusion, individuation, exclusion? Comment se présente pour nous la question de l'altérité?
Moi, en tout cas, ce qui me viendrait, c'est que j'aimerais bien qu'on essaye de réfléchir à cette question de l'altérité à partir de choses simples, concrètes, pratiques, de ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi l'altérité que je vis dans mon couple, avec mes collègues de travail, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes parents, avec mes voisins, avec les gens avec lesquels je discute. Et par rapport à ce que tu dis, je crois que d'emblée, on peut, même si c'est un tout petit peu binaire, penser qu'il y a en gros, deux altérités. Il y a une altérité qu'on va ressentir fondamentalement comme dangereuse et menaçante pour nous, et il y a lieu d'y réfléchir. Et on va aussi faire l'expérience d'une altérité qui vient nous déranger à un endroit où c'est dérangeant, mais délicieusement dérangeant, c'est-à-dire on se dit, tiens, mais lui, il m'ouvre un espace. Voilà. Donc moi, je propose qu'on essaye de repenser à cette altérité dans ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'on soit pas naïf avec « Ah, l'altérité, c'est extraordinaire, c'est... » Voilà, tout ça. Non, de temps en temps, c'est lourd, de temps en temps, c'est pénible. Et c'est pratiquement toujours une épreuve. Mais aussi, on sent bien que dans la rencontre de quelqu'un qui va nous surprendre et qui va nous apporter un espace radicalement différent, quand bien même ça nous dérange, eh bien, il y a quand même quelque chose qui est une ouverture.
Alors, altérité du couple, altérité peut-être aussi dans l'amitié, altérité chez l'autre au sens plus large du terme. On commence par ça, mais on ira peut-être au fur et à mesure de notre avancement vers ce que l'autre peut devenir quand il devient les autres. Ce qui est une nuance en soi, puisque des groupes se forment à partir de ça, des possibilités d'appartenance ou éventuellement de stigmatisation. On reprendra ce. Alors sur le couple, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'altérité au sein d'un couple?
Alors, déjà, je reviendrai un tout petit peu en arrière parce qu'il y a un sujet qui me paraît important, en tout cas, à proposer en prémisse, dans les débuts, en tout cas, de cette émission, c'est qu'on a eu beaucoup de débats ces derniers mois autour de l'identité.
Bon, absolument.
Identité, on l'a qualifiée, d'ailleurs, il y a eu un ouvrage, Finkielkraut, sur l'identité malheureuse. Mais en opposition par un des candidats à la primaire de la droite, l'identité heureuse. On a l'impression que du côté de l'altérité, par contre, et puisqu'on ne parle, pardon, que d'identité, on a l'impression que, par contre, du côté de l'altérité, elle ne peut être que malheureuse ou dérangeante. D'ailleurs, dans ce que tu disais, Dominique, il peut y avoir un dérangement délicieux. Enfin, c'est un dérangement. C'est comme si, dans les temps dans lesquels nous sommes, il n'y avait que du désagrément à essayer d'envisager la question de l'altérité. En tout cas, personne ne l'évoque. Je pense que c'est, dans le couple, quelque chose qui est aussi assez frappant. C'est un tout autre plan, mais tout se passe comme si, aujourd'hui, au moindre désaccord, enfin j'exagère en disant ça, disons que je reprends un peu des affirmations un peu à l'emporte-pièce qu'on entend partout, dès que quelque chose dérange, le couple n'existe plus. C'est-à-dire que le couple ne peut se vivre dans l'altérité que finalement lorsqu'il n'est plus couple. Chacun redevient effectivement un autre tout à fait distant pour le couple. Alors, voilà, je crois que dans le couple, il y a un mélange de l'altérité et de l'identité qu'a trop joué la part identitaire. On appelle ça des couples fusionnels, simplement. Mais là aussi, comme dans la société en général, on dirait que la question de l'altérité, que l'altérité, c'est quelque chose de difficile à vivre d'abord.
Alors ça serait en fait tout sauf... le conflit serait tout sauf de l'indifférence, en quelque sorte.
Ça c'est encore un autre champ. C'est un autre champ. Moi, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Olivier, à l'intérieur du couple. Pour moi, il y a deux espaces qui sont quand même relativement différenciés dans une rencontre. C'est une sorte de champ, je dirais, de champ culturel dans le sens le plus large du terme, où l'expérience sociétale semble montrer que une forme de proximité dans les champs sociaux à l'intérieur d'un couple sont un gage, enfin un élément important dans la réussite. C'est sûr que s'il y en a un qui aime que la philosophie et l'autre qui aime que le football, ça va être plus difficile de trouver un champ de partage de vie commun. Mais dans un autre registre, beaucoup plus inconscient, il me semble, beaucoup plus en profondeur, et qui me paraît très très déterminant dans la rencontre entre deux individus, il me semble que les espaces d'ombre, par contre, se situent dans un espace d'altérité. C'est-à-dire qu'au fond, je vais chercher chez l'autre quelque chose qui est comme en creux ou qui me manque. Alors on pourrait dire c'est l'étymologie de sexualité, de section, hein, c'est-à-dire voilà, si je suis dans mon identité d'homme masculin, alors il y a quelque chose qui va me manquer, c'est le féminin. Mais à des tas d'autres niveaux, il y a une altérité qui est en quelque sorte souhaitée, désirée, mais dans un espace complètement inconscient. Alors cette altérité, elle arrive à se déployer, elle arrive à se nouer, elle arrive à tisser des liens, et puis de temps en temps, elle n'y arrive pas. Voilà. Donc moi j'avais envie de bien faire cette différence entre les deux, c'est-à-dire à l'intérieur d'un couple, pour moi, le couple inconscient, c'est un couple qui est dans l'ombre, et à mon avis, il se joue vraiment dans une altérité. Il ne se joue pas du côté du même. Tandis que peut-être dans l'espace conscient, si on aime à peu près les mêmes choses, du style on aime bien aller au cinéma tous les deux, ça va fluidifier et ça va faire dans le champ du conscient du lien. Donc il y aurait du même, donc peu d'altérité peut-être, dans le champ de la vie de tous les jours. Mais à mon avis, en profondeur, cette altérité, elle est vraiment très prégnante. Et peut-être c'est celle qui détermine même l'énigme du lien.
Et cette altérité, ce lien, plus exactement, que tu vois dans la construction, finalement, de la relation, est-ce qu'elle tient à un espace uniquement fonctionnel ou un espace symbolique? Ou les deux, peut-être?
Oui, moi, je dirais les deux, dans le sens... je sais pas, j'avais envie de prendre des exemples un peu bébêtes, hein, voilà. Mais je trouve que quand c'est bébête, il me semble que souvent, ça parle. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de trouver chez leur compagne une figure maternelle, par exemple. Et alors, la belle affaire. Donc il me semble que dans ce sens-là, ça a une dimension fonctionnelle, hein, c'est-à-dire de temps en temps, quand je vais en avoir besoin, ma compagne ou ma femme, elle va prendre soin de moi. Et puis, ça a, à mon avis, une dimension aussi potentiellement en tout cas symbolique, puisque dans cette expérience que je fais avec l'autre, je vais pouvoir éventuellement transformer le personnage de ma compagne comme gentille maman qui s'occupe de moi quand j'ai mal aux dents, en un personnage que je vais intérioriser et qui va me permettre de pouvoir trouver une sorte de bonne mère intérieure, par exemple, et qui va participer et accompagner mon processus d'individuation. Donc il me semble que ça se situe dans les deux choses. Et on peut faire la symétrique, hein, évidemment. Et puis ça ne se joue pas que dans les figures parentales, ça se joue dans les figures frères-sœurs, plein de choses.
Et tu places comment la dimension affective dans cet espace fonctionnel et en fait symbolique, réactionnel en quelque sorte?
Ben ici, l'affect, à mon avis, c'est le moteur. C'est le moteur. C'est, pour moi, tout lien avec l'autre repose essentiellement sur une projection. C'est-à-dire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est comme en attente. Pour moi, ça va être, j'allais dire, ma belle au bois dormant. Voilà, j'ai ma belle au bois dormant. Elle s'est construite à partir de mon expérience d'enfant, par exemple. D'ailleurs, elle peut très bien changer quand j'ai 16 ans, quand j'en ai 30 ou quand j'en ai 60, puisque maintenant on voit des couples qui se reforment beaucoup plus tard. Et cette belle au bois dormant, je la projette sur l'autre. Voilà, donc l'affect, c'est le moteur.
Alors ça veut dire que, Olivier, il y aurait des représentations ou des projections croisées, pas forcément dites, et qui structurent, qui sous-tendent finalement des relations qu'on vit avec une autre perception. Parce que je pense que ce que tu appelais l'inconscient n'est pas aussi présent que cela dans la réalité même des réactions que je peux avoir avec telle ou telle personne. Alors, comment est-ce que finalement des aiguillages croisés de cette façon-là, de façon non dite, peuvent générer un vivre en commun?
Je pense que je voudrais réagir à ce que disait Dominique et à ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense que en effet la dimension inconsciente est forcément très 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 importante dans l'affect. De toute façon, la dimension inconsciente est toujours extrêmement extrêmement importante. Et puisque c'est inconscient et que sur ce plan-là, nos identifications inconscientes peuvent être un peu diverses, je voudrais juste ajouter que, à mon avis, Dominique, tout ce que tu dis du couple, en parlant de compagnon-compagne, peut très bien fonctionner avec deux compagnons ou deux compagnes aussi.
Bien sûr. Hein, bien sûr.
Voilà. Donc, oui. Je voulais juste l'ajouter rapidement entre parenthèses. Effectivement, cette altérité du côté de la complétude peut être dérangeante, mais délicieusement dérangeante, puisque c'est quelque chose qu'on va rechercher du côté de notre manque. Donc on va fonctionner, on va être aspiré par cette espèce de manque qui évidemment demande à être comblé. Et je me dis que l'altérité du manque, elle peut passer aussi au trop. Trop, T-O-R-P. T-R-O-P, évidemment, pas trop ni au galop.
Ni au galop,
mais
oui.
Voilà, mais bon. C'est lorsqu'elle passe au trop que là, on peut être vraiment débordé et que cette altérité peut faire une grosse difficulté. C'est-à-dire que tant qu'effectivement, cette altérité est au bout de notre désir, c'est très bien, mais si cette altérité déborde, voire nous submerge, là pour le coup ça devient potentiellement très inquiétant. Et ce trop là, souvent il est du côté du désir que l'autre justement amène, avec lequel on ne sait pas forcément comment faire.
Parce qu'en fait, la réaction que ça me provoque, c'est que c'est une complexité qui n'est pas forcément soluble dans une volonté que chacun, je pense, a de maîtriser la réalité. Donc, ma question, en fait, que je me pose, à quoi se livre-t-on ?
Mais non, mais c'est ça, c'est du côté de la maîtrise de la réalité, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que l'autre est celui qui correspond, qui est au bout de notre manque, en quelque sorte. cet autre-là, c'est un autre que j'ai en tête déjà. C'est-à-dire que c'est un autre qui est un petit moi-même, au fond. En tout cas, qui correspond à mon attente. Il m'appartient toujours. Il y a toujours chez cet autre-là, délicieusement dérangeant, beaucoup d'identité, en tout cas d'une identité à cet autre-là que j'ai en tête, préalablement à la rencontre sans doute. C'est là où il y a quelque chose qui peut fonctionner. Il y a bien, là aussi, encore une fois, de l'identique qui est à l'œuvre. Et c'est, à mon avis, c'est du côté de l'identique que... Là j'ai un écart avec toi, Dominique. C'est-à-dire qu'effectivement, certainement que sur le plan inconscient, l'altérité est très, très fonctionnelle, très attractive, très puissante. Mais c'est aussi une altérité qui est préalable à la rencontre avec l'autre. Donc c'est une altérité dont, qui n'est pas radicale, quoi, qui est déjà dans mon imaginaire, qui est déjà qui est bien présente au fond. Donc c'est comme si le vrai autre devait répondre à cette image que j'ai en tête. Et parfois il y a des décalages, parfois c'est compliqué.
Et puis... Moi, ce que ça m'évoque, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris bien tout ce que tu disais, Olivier, là.
C'est parce que je n'ai pas été clair.
Si tu peux, oui, ou peut-être le reprendre. En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a lieu de se dire que l'expérience de l'altérité n'implique pas l'obligation de dépasser cette altérité. Voilà, c'est tout. Il y a des altérités que l'on vit, qui sont nourrissantes, mais il y a aussi des tas d'altérités qui sont destructrices et qui sont, voilà, qui aboutissent à des impasses. Voilà, on ne sait pas très très bien pourquoi on a investi un lien, et puis on s'aperçoit que ce lien, il est destructeur. Voilà, faut sortir. Hein. Donc, il n'y a pas lieu de penser l'altérité comme une espèce de gage total. Et alors, en même temps, j'aurais envie de dire presque exactement le contraire juste après, c'est-à-dire de se dire que, pour reprendre ce que j'ai cru comprendre de ce que tu disais, Olivier, je vais le reprendre là au niveau de l'amitié, pour que ça soit dans le sens le plus large du terme. C'est-à-dire, avec l'ami, il y a quelque chose de l'ordre d'une attente qui se joue dans une forme de proximité, c'est-à-dire j'ai envie qu'il soit un peu comme moi, voilà. C'est-à-dire, allez, tu viens, il y a un match de foot ce soir, et hop, on se prend une petite bière.
On partage des choses, quoi.
Et on partage des choses, mais on partage des choses parce qu'on les a en commun, quoi, voilà. Mais de l'autre, il y a aussi, du côté de l'amitié, l'attente que l'ami que j'écoute et dont j'attends quelque chose d'une vraie réponse vienne me dire quelque chose que lui y sent et dans un espace où moi je suis particulièrement aveugle. Hein. Donc c'est du côté d'une espèce d'altérité qui va être dérangeante mais qui va être utile. Mais tu crois ça? Mais écoute, je te le dis, voilà, vraiment, ça va pas, ça fait 20 ans qu'on se connaît, là c'est nul ton truc, pourquoi tu fais ça? Voilà, hein, donc là on est dans une proximité, mais où il y a une altérité qui va permettre la connaissance de soi-même. C'est pour ça que, pour reprendre ce que tu disais, il y a toujours lieu dans la vie de pouvoir devenir l'ami de soi-même. Voilà, et d'ailleurs, on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas. Hein? Voilà, donc si on vit la relation que l'on a avec soi-même comme une altérité beaucoup trop douloureuse, eh bien, toutes les altérités vont être douloureuses. Hein? C'est-à-dire, je fais le lien entre la relation qu'on a à l'intérieur de soi-même et la relation qu'on a avec l'autre. Et en même temps, celui qui s'aime bien lui-même profondément, malgré tout ça, il a quand même besoin d'avoir des amis. C'est ça qui est sympa, je trouve.
Alors, moi, ça
ce qui veut dire qu'à mon avis, on n'en a jamais fini avec cette altérité intérieure.
Oui, alors ça me fait réagir parce qu'en fait, on ne se connaît pas toujours avec l'autre depuis 20 ans. Oui. Et que la confiance qui est effectivement un sésame pour passer effectivement le cap d'une évaluation, d'une soumission à l'autre... ou de la perception de la domination de l'autre. On y reviendra peut-être aussi là-dessus. Mais quelle est la part de ce qui tient à soi, de ce qui tient à un besoin de sécurité, je dirais, objective presque, dans ce que l'autre reste quand même un inconnu pour soi?
Je pense qu'on ne peut pas devenir aussi... C'est ce que l'un et l'autre vous dites qui m'inspire ça. C'est-à-dire que dans la rencontre et justement dans cette espèce de contradiction que l'autre nous propose ou d'altération, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de devenir un peu autre à chaque fois. C'est-à-dire que ça nous change, en fait. Ça nous change concrètement, sans doute. Ça change nos perceptions, Bien sûr, alors on pourrait dire non, à l'intérieur je reste exactement le même, mais je ne suis pas sûr. Si nos perceptions changent, ça nous change vraiment. C'est-à-dire que l'enjeu de l'altérité, c'est aussi certainement de devenir autre à soi-même, un peu.
Et dans quelque chose qui là est un plus de vie quand même, hein,
oui, potentiellement. Bien sûr, hein. Oui, bien sûr, que c'est un enrichissement, bien sûr.
Voilà. Que cet enrichissement passe par une ouverture dans un espace beaucoup plus vivant en soi, ou qui passe par la reconnaissance d'un personnage de son ombre, hein, aussi. Ça, je pense que c'est important. Moi, j'aime bien les choses, les exemples concrets. Dans l'amitié, moi, ce qui me semble très important dans l'amitié, c'est que l'autre, il va nous dire nos points aveugles.
Mais si tu t'aimes pas dans ce que ton ami te dit, oui, ça c'est compliqué quand même.
Oui, mais c'est quand même l'ami qui va pouvoir au mieux te le dire. Ouais, mais écoute, je te connais là, là ça va pas là. En gros, tu déconnes ici. Donc il va venir nous dire un espace que lui perçoit et il va pouvoir le dire grâce à cette amitié. Donc je trouve que, voilà, il y a par rapport à ce que tu disais Gabriel, et je suis pas sûr là encore d'avoir tout bien suivi, mais il me semble qu'il y a une part probablement un peu narcissique, on pourrait dire, hein, dans quelque chose de l'ordre de l'expérience d'une altérité limitée, mettons, dans l'amitié. Mais il y a une dimension dérangeante qui vient nous dire ou mettre en scène, toujours dans cette amitié-là, une altérité qui est la nôtre à l'intérieur de nous-mêmes et qui, en gros, nous est pénible.
Oui, derrière l'ouverture que tu as évoquée tout à l'heure par rapport à l'autre, pour moi, il y a deux postures qui sont d'ailleurs très dynamiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas figées. C'est la posture de coopération ou la posture de conflit. Et bon, en tout cas, les deux, pour revenir à la question que je me posais au départ et sur laquelle on reviendra sans doute, mais c'est l'indifférence. L'indifférence, est-ce que finalement elle est une troisième voie dans laquelle finalement le meurtre se commet? Parce qu'en fait, coopérer, j'en suis capable. Conflictualiser, j'en suis capable. Être indifférent, j'en ai quand même assez peur parce que du coup, j'ouvre le champ de ma propre barbarie, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce que je fais de ça?
Moi, je pense qu'il faut que tu en rajoutes un peu plus là.
Vas-y.
Parce que, vas-y, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais du côté de... Parce que c'est vrai, du côté de l'altérité, on le voit bien dans une altérité vivante, et on le voit bien dans une altérité conflictuelle, hein, dit en langage courant, avec mon prochain, avec mon proche, par exemple, je vis quelque chose qui est de l'ordre de « c'est bien sympa ensemble », et puis de temps en temps, on n'est pas d'accord. Hein. Donc là, je vis dans cette différence une altérité. Mais toi, tu introduis la notion de l'indifférence, ce qui est autre chose.
Ben parce qu'en fait, soit je réagis de façon constructive, je coopère, soit je réagis de façon véhémente et je rentre en conflit, mais en conflit construit, c'est-à-dire je m'oppose et je traduis un certain nombre d'arguments pour m'opposer. Soit je suis dans une incapacité, je ne sais pas si c'est une volonté, je crois que ça ne l'est pas une volonté. Je suis dans une indifférence où ce qui peut arriver autour de moi ne me touche plus et je me dévitalise du coup de ma capacité humaine à réagir de façon digne et décente par rapport à certaines choses qui devraient me toucher.
Mais je vais essayer de reprendre un petit mot de Lacan sur la question de l'amour, de la haine et de l'indifférence, justement. Alors, dans l'amour, tout se passe comme si, je ne dis pas que c'est une illusion, mais on se raconte une histoire commune, avec les mêmes mots, les choses fonctionnent, et évidemment, du côté de tout ce qui est affectif, l'engagement est très, très important, du côté de l'amour ou de l'amitié. C'est l'amour au sens large, ce que j'aime, quoi. Pas forcément simplement l'amour amoureux du couple, etc. Ce que j'aime. On voit bien comment ce que j'aime peut être très très vite, et d'autant plus que je l'aime, ce que je déteste. Parce que tout d'un coup, quelque chose vient résister à cette histoire que je me raconte, et vient s'opposer à cette histoire. Mais l'engagement affectif reste toujours le même, ça devient insupportable. Et là, du coup, cet engagement affectif se transforme dans son contraire, en quelque sorte. Mais le contraire n'est jamais bien loin voilà, de l'affect d'origine. Dans l'indifférence, c'est comme si il n'y avait... On pouvait en parler. On peut en parler parce qu'on ne peut être indifférent qu'à quelque chose qu'on nomme. Sinon, si c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qui existe pour nous, ben on ne peut pas en parler, on n'est pas indifférent par rapport à ce qu'on ne conçoit pas. Donc on le conçoit, on peut en parler. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affect dedans. L'indifférence, c'est un univers sans, que l'on peut dire, que l'on peut décrire, que l'on peut lire, mais qu'on ne peut pas toucher. Et souvent, d'ailleurs, il faut que l'imaginaire se mette en place pour que quelque chose d'autre que l'indifférence se mette en place. C'est la grande force de tout un tas de publications. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Le choc, il se fait bien du côté de l'image. Il se fait bien du côté de quelque chose qui, tout d'un coup, va devenir concret, en quoi on va pouvoir se reconnaître, en partie. C'est-à-dire que pour reconnaître l'altérité, encore une fois, je pense qu'il faut quelque chose qui nous touche, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'identité, qui soit quand même au plus proche possible de nous. Il y a quand même un moteur identitaire qui est problématique, parce que c'est lui aussi qui, évidemment, génère la haine. Mais regardez, si on reprend le même schéma, très souvent la haine oppose d'abord les proches, les plus proches.
Alors, moi, du coup, j'avais envie de... Ça me rappelait une petite histoire. Je ne sais pas si on a le temps de raconter ça. C'est l'histoire qui est en fait l'origine de la guerre de Troie. L'origine de la guerre de Troie, c'est quoi ? C'est un peu lointain, donc je vais peut-être dire des bêtises. Mais maintenant qu'on a une adresse courriel, on va voir tous les
correctifs possibles. On rappelle l'adresse courriel, d'ailleurs, au passage. dorsalrgc@gmail.com.
Voilà. Alors, dans le souvenir que j'en ai... Il y a Zeus qui s'est dit, tiens, j'ai envie de marier la déesse Thétis à un mortel qui s'appelle Pelée, je crois. Et ce couple-là, ça va être parents d'Achille, hein, d'Achille le héros grec. Et alors, il invite tout le monde, il invite les dieux, les déesses, quoi, le grand banquet, l'Olympe. Il y a que du nectar et de l'ambroisie là-haut, ça doit être un peu pénible, mais enfin, bon, c'est comme ça. Voilà. Et évidemment, il oublie d'inviter quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire de la Belle au bois dormant aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire le roi, il va marier sa fille et il oublie d'inviter une espèce de fée qui va se révéler une sorcière. Je ne me souviens plus si c'est celle-là qui s'appelle la fée Carabosse, je ne sais pas trop quoi. Enfin, elle arrive sur le berceau et puis, évidemment, elle dit plein de choses qui sont des choses tout à fait passionnantes. Et alors, qui est-ce qu'il invite ? Vous allez voir, je vais revenir à la fin, je garde un tout petit peu de suspense, donc je ne dis pas le nom de celle qui est invitée. Celle qui est invitée, elle arrive, évidemment, elle ne s'est pas invitée, mais elle arrive quand même, comme ça, elle a pris le dernier métro, et elle arrive, et elle pose sur la table du banquet une pomme, qui va s'appeler la pomme de discorde. Et sur la pomme de discorde, il y a marqué « à la plus belle ». Alors vous imaginez, déjà, ça pose un petit peu le problème. Ça pose des problèmes. Et à la plus belle, alors évidemment, toutes les déesses arrivent, bah, c'est pour moi, la plus belle. Et alors toutes, alors je crois qu'il doit y avoir Aphrodite, qui est, je ne sais plus si c'est la nièce, la fille ou la tante, comme ça. Il y a Héra, qui est la femme de Zeus. Enfin, en gros, entre sa tante, sa fille et puis sa femme, ça commence à être un petit peu le conflit. Alors Zeus, il sent que ça va être un petit peu délicat pour lui et que s'il n'a pas envie de se fâcher, si elle n'a pas envie de mourir, quoi, parce qu'ils sont immortels, mais enfin, quand même, il y a un peu des conflits. Et alors donc, il va appeler un autre, en l'occurrence Priam, qui va venir donner son avis, et puis peu importe la suite. Et alors, je vous dis les noms, parce que celle qui n'a pas été invitée, elle s'appelle Eris. Et Eris, en grec, c'est la discorde. Et vous entendez bien que c'est un mot extrêmement proche de Eros. Donc vous voyez, il me semble que ça rejoint ce que tu disais. Hein, c'est-à-dire, on ne se dispute, et ça rejoint ce que tu disais, Gabriel, à propos de l'indifférence. J'espère qu'on va revenir sur l'indifférence. On voit bien qu'on ne se dispute jamais aussi bien qu'avec les gens qui comptent pour nous. Voilà. Si quand on sort tout à l'heure de Radio Grand Ciel, il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, moi j'ai des lacets qui sont rouges aujourd'hui. Si quelqu'un me dit que mes lacets rouges, c'est vraiment complètement débile et qu'il y a vraiment beaucoup de farfelus à Radio Grand Ciel, ça va me faire rigoler, puis je vous en parlerai la prochaine fois. Si c'est quelqu'un que j'aime qui me dit, quand même, tes lacets rouges, t'es pas un peu barjot, ça va me toucher. Donc vous voyez, dans cette histoire, Eris et Eros sont invités dès qu'il y a du lien. C'est-à-dire, voilà. Alors en plus, la plus belle, vous savez, ça va être Hélène. Hélène, elle est mariée avec Médéas, je crois. Et donc, c'est comme ça que commence la guerre de Troie. C'est-à-dire, au fond, comme ça que commencent toutes les relations.
Alors moi, je voudrais rapprocher cette histoire-là, parce que j'ai bien saisi, bien compris la proximité entre l'amour et la haine, à une perspective, je dirais, de travail qu'a développé René Girard, et qui dit qu'en fait, on a une volonté chacun en nous d'être imité au plus près, mais tout en se réservant pour soi la possibilité d'être hors norme de ce que l'on souhaite être imité. Alors, derrière ça, c'est l'interrogation sur la différence que je... Parce que indifférence, différence, l'autre n'est pas une totalité qui est assimilable jusqu'au dernier point à moi. À moi dans ce que je suis, et quand je dis moi, c'est l'autre pourrait être moi s'il tenait le même discours, bien sûr. Hein. Donc, cette différence-là, est-ce qu'elle est, objet d'un écart perceptible, mais évaluable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je prends une position de supériorité, de neutralité ou d'infériorité par rapport à l'autre ? Par rapport à la différence que je perçois. Est-ce que je suis clair ?
Non. Moi, je n'ai pas tout compris.
Bon. Ben, écoute, je vais me permettre de réitérer. La différence, pour moi, elle est un objet d'évaluation. Un objet d'évaluation par rapport à moi en tant que référentiel. Et je peux avoir, dans l'évaluation que je porte, une attitude de supériorité, de neutralité bienveillante ou d'infériorité. Alors, cette différence-là qui préside, je pense, à une juste relation. Qu'est-ce que j'en fais de façon à pouvoir réguler, d'une certaine manière, ma relation à l'autre. Est-ce que j'en suis conscient, d'abord ? Et est-ce que dans cette conscience-là, je peux avoir un certain regard immédiat sur moi-même dans ce que je génère sur l'autre ?
Je me demande si tu ne touches pas là à la racine des, des mots identitaires. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que identité et altérité doivent nécessairement se conjuguer, en tout cas altérité avec la différence, doit nécessairement être associée à une évaluation de ce type-là. Égalité, supériorité, infériorité, en gros. Hein.
Parce ou que neutralité.
Oui, égalité, j'ai dit.
Oui, égalité.
Quelque
oui.
chose comme ça. Enfin, ouais. D'accord. Neutralité, d'accord. Peu importe. En tout cas, le problème, c'est surtout supériorité, infériorité, d'ailleurs. Bon. Mais si tu dis égalité, et c'est pour ça que je prenais plutôt égalité, d'ailleurs, ouais. Tu as la question de l'ego dedans, à nouveau, donc du moi, à nouveau, donc de l'identité. Et finalement, on n'est pas dans un vrai registre de processus, comme disait Dominique tout à l'heure, vis-à-vis de l'altérité quand on dit ça. On est figé. On est figé dans une position évaluative. Et très souvent d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, quand on juge quelque chose de haut, donc en évaluant l'autre comme inférieur, ça cache généralement une inquiétude quant à sa propre supériorité. Et inversement, lorsqu'on juge quelqu'un très très haut, c'est aussi pour pouvoir s'en réclamer. Et c'est souvent intérieurement la position inverse qui finalement, par rapport à celle qui s'exprime. Bon, et on est tout de suite dans un registre d'opposition, pas forcément conflictuel, mais de différenciation dans la mesure. Au lieu d'être dans un registre de différence, sans égalité ni neutralité, mais d'intérêt, de recherche, justement comme on pouvait tout à l'heure le supposer, du côté de voilà, ça me manque, ou ça m'intéresse, je suis curieux, ou ça m'attire. On n'est plus là-dedans, on est dans quelque chose de très figé, d'une identité qui s'exprime sans mouvement en quelque sorte.
Alors, pourquoi je pose cette question ? Parce qu'en fait, il y a eu des évolutions des sociétés, et derrière la différence, s'est profilée très rapidement. On peut en reprendre les différents pas historiques, la mesure, la comparaison du stade d'évolution des sociétés, et derrière laquelle une hiérarchisation apparaissait. Et on s'était exprimé en termes d'infériorité ou de supériorité par rapport à des autres, là, du coup, des cultures, qui étaient jugées par rapport au référentiel.
Oui, voilà. Je te coupe rapidement parce que c'est exactement, je crois, ce qu'on vient d'essayer de dire. Par exemple, par rapport à des affirmations récentes d'hommes politiques qui ne sont plus trop maintenant, l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Voilà une affirmation qui est une affirmation qui se pose en surplomb par rapport à une infériorité. Mais on peut le dire donc comme ça, et dans ce registre-là, c'est conflictuel. Et d'ailleurs, il y a eu de multiples volées de bois vert à partir de cette affirmation-là, à juste titre, je pense, où on peut considérer que les modalités d'entrée dans l'histoire ne sont pas les mêmes, par exemple. Sont jugées d'une supériorité, d'une infériorité de l'entrée dans l'histoire. Ça parce qu'il y a une vraie confusion, c'est-à-dire que la différence, c'est que l'histoire de l'homme noir n'était pas aussi écrite, ou pas écrite depuis très longtemps, parce que c'était pas une civilisation de l'écrit. Et ça vient de cette espèce de présupposé que l'histoire écrite est supérieure à l'histoire non écrite, par exemple. Alors que des traces de l'histoire non écrite, on en a beaucoup dans nos civilisations aussi. Enfin voilà, donc on mélange les choses, c'est-à-dire qu'on va figer à un moment quelque chose d'une évaluation autour de l'identité, au lieu de considérer l'identité comme un trait. Justement, un trait qui est différent du trait qui nous caractérise. Là, je dis trait comme trait de caractère. Hein. Voilà, par exemple. On est bien dans une évaluation.
Alors, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu disais, Gabriel, et que tu viens de reprendre, Olivier, c'est que, en effet, du côté de cette infériorité et de cette supériorité, peut-être que jusqu'à maintenant, on aurait fait l'impasse sur quelque chose de très fondamental, à savoir, enfin ça me vient comme ça en t'écoutant, à savoir que le premier ressenti immédiat de l'altérité, c'est est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous, finalement. C'est-à-dire l'altérité de l'autre que je vais percevoir comme supérieur, quelle que soit l'idée, hein, que ce soit sur le plan humain, du savoir, de la compétence technique, etc., ou inférieure, avec tout ce que tu as dit, Olivier, des ombres de tout ça, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire d'une forme de leurre, de projection et tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc je te remercie parce qu'il me semble qu'en effet, l'expérience peut-être de l'altérité, la première expérience de l'altérité, elle est d'abord d'ordre émotionnel. C'est-à-dire,
ouais, sûrement, ouais.
D'abord j'ai l'émotion qui est, je caricature, la joie ou la peur. Hein? C'est-à-dire l'autre va me faire peur. Donc au fond, dans l'altérité, il y aurait ces premières, ces cinq ou six émotions basiques, hein, que sont la peur, la joie, le mépris, la terreur, enfin bon, juste comme ça, peu importe, c'est pas le lieu d'en parler ici. Et alors du coup, ça reviendrait au fond à reprendre la question du rapport qu'on entretient avec soi-même. Hein? Dans le sens où tu le disais, Olivier, c'est-à-dire quand on pense que l'autre est supérieur, c'est ceci, ou quand il est inférieur, c'est ceci, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça, et parfois, on dit exactement le contraire de ce qu'on dit, enfin, où on vit ce qu'on... Voilà. C'est-à-dire pouvoir s'interroger sur la question de l'émotion. Et là, moi, j'aurais envie de dire que si on arrive à dépasser quelque chose de ce premier ressenti émotionnel, qui est souvent d'ailleurs de l'ordre de la survie, hein, d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette utilité. Alors on peut découvrir ce qui pour moi est fondamental dans l'idée de l'altérité, c'est-à-dire l'autre, il détient une vérité sur moi-même que lui connaît, mais qui moi m'échappe. Mais ça nécessite en effet que j'ai pu dépasser ma première émotion.
Mais alors, question Olivier, supériorité, égalité, infériorité. Non, je faisais référence à aucune.
C'est pas une devise que je connais, celle-là.
Ouais. Non, mais et l'altruisme alors? Où est-ce qu'il se place? Est-ce qu'il se place en termes d'évaluation ou est-ce que c'est une générosité spontanée qui nous viendrait d'on ne sait où et qui finalement pousserait l'individu à exploser, la gangue de l'ego et de l'égoïsme finalement dans son rapport à l'autre?
L'altruisme comme un élan vers l'autre, comme ça. Alors, je pense que l'altruisme désigne un comportement comme ça. Après, ce par quoi ce comportement est fondé, enfin, les raisons pour lesquelles on développe de l'altruisme peuvent être extrêmement diverses. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait sur le même plan. On peut avoir un mouvement vers l'autre piloté par notre propre recherche de plaisir, par exemple. Donc, c'est pas. Il faudrait être précis quant à ce que signifie l'altruisme. C'est toujours un mot très très compliqué à définir, sans doute parce qu'aussi dans le mouvement identité, enfin dans le rapport plutôt, dans le diptyque identité-altérité, je crois que tout ce qu'on a dit laisse assez penser que c'est très intriqué, c'est très mêlé. C'est-à-dire que dans le goût de l'altérité, il y a des fondements identitaires, dans l'identité, on peut jouer l'altérité, c'est-à-dire se changer soi-même, notre identité, nous ne restons pas identiques à nous-mêmes. Enfin, c'est compliqué donc du coup de traiter l'altruisme là-dedans.
Ok.
Moi, ce que ça m'évoque du côté de l'altruisme, parce que dans l'altruisme, il y a quand même alter aussi, hein, il y a toujours l'autre aussi. Ouais. Pour moi, l'altruisme, quand même, à un certain niveau, même si l'altruisme, ça peut être horriblement louche. Horriblement louche, en particulier narcissique, on pourrait dire. Bon, et alors, il faut un petit peu de narcissisme quand même aussi, hein, parce qu'autrement, on n'existe pas. Ou alors, on est tous bisounours, et je sais pas, comme ça. Pour moi, quand même, l'altruisme, c'est vraiment une éthique de l'altérité. C'est vraiment une éthique de l'altérité. Donc, on voit qu'il y a là quelque chose qui est fondamental. La deuxième chose, ça, c'est plutôt Ricoeur qui a dit ça, c'est-à-dire, l'autre, en fait, alors moi, je le vois dans mon travail de soignant, au sens large du terme, l'autre, quand il vient me voir, il me dit toujours « toi aime-moi ». Il me dit ça. Donc c'est dans cet espace-là où l'autre me dit « toi aime-moi » que finalement, il y a quelque chose de cette proximité et de cette altérité. Donc dans l'altruisme, il y a quelque chose de l'altérité, d'une altérité contenue dans une valeur particulière. Hein.
Et alors.
La première des questions qui se posent, c'est dans ces différences qu'on a évoquées, dans la façon de les gérer, il y a une manière il y a matière en tout cas, il y a matière à réguler pour mieux vivre ensemble, mais peut-on vivre ensemble avec des idées contraires? Peut-on vivre ensemble avec des idées contraires et qui vont jusqu'à non plus l'ouverture, mais la fermeture, voire des postures d'exclusion ou de discrimination.
Oui, ça dépend. Là aussi, un mot célèbre d'un homme politique il y a quelques années qui disait préférer ses filles à ses nièces à ses cousines à je sais pas qui, enfin bon voilà, avec des cercles comme ça de plus en plus distants du centre qui était lui, quoi. Donc là, on voit bien l'égocentrage qui a donné lieu à la préférence nationale, dont on ne sait pas très très bien ce qu'elle signifie, puisque c'est quoi l'appartenance à une nation, par exemple. Donc effectivement, si on est dans un registre d'éloignement progressif, et puis qu'on juge de la possibilité de vivre ensemble à la proximité plus ou moins grande qu'on a avec les autres, on risque de ne pas faire se dialoguer des différences. Des, voilà. En même temps, moi, je suis toujours très très embêté par une autre posture qui s'appelle celle du multiculturalisme. C'est très compliqué le multiculturalisme parce que ça veut dire qu'en fait, on refait ça, c'est-à-dire qu'on tolère la préférence nationale ou la préférence, on va dire plus simplement identitaire, avec des tas de petites identités juxtaposées les unes à côté des autres et qui, au fond, n'auraient pas nécessairement vocation à dialoguer. Ça aussi, c'est très très compliqué. Mais là encore, je crois que vis-à-vis des autres, ce qui est sans doute le plus important, c'est de rappeler le terme que je trouve extrêmement intéressant que Dominique a utilisé tout à l'heure, qui est celui du processus. C'est-à-dire comment on fait, c'est plus important sans doute que de considérer les autres, il y a peut-être à considérer ce qu'ils ont à dire et comment justement on peut nous aussi dire quelque chose et accepter dans ces discours comme ça qui s'affrontent, pourquoi pas, qui se confrontent dans un espace où on ne fait que affronter les discours hein, sans armes, accepter l'altération. L'altération plutôt qu'une autre altération beaucoup plus radicale qui est celle qui passe par les armes et qui fait qu'il y a des morts.
Mais alors cette façon d'accepter finalement le contenu d'un discours, est-ce que c'est simplement quelque chose qui tient à une forme de relation ou est-ce que c'est quelque chose qui est en soi rédhibitoire, on va dire, sur des incompatibilités quasiment culturelles, viscérales, quoi.
Mais c'est pas forcément grave, ça, je crois pas. C'est-à-dire que la question, je pense qu'on peut pas dissoudre cette question dans l'accord maximal. L'accord suppose effectivement toujours quelque chose d'impossible. Par contre, il y a une autre idée qui est plutôt intéressante, qui est celle du compromis, qui peut laisser chacun à son désaccord, ou à son quant à soi, qui est en désaccord avec le quant à soi de quelqu'un d'autre, mais qui trouve des modalités d'ajustement dans un espace partagé, quoi, par d'état d'autres. Ça ne veut pas dire être d'accord.
Oui, on pourrait d'ailleurs dire que, pour mettre un petit mot là-dessus, cette espèce de fantasme, ça pourrait être le fantasme du consensus tout le temps.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et ça, pour moi, le consensus tout le temps se fait au détriment de l'altérité, c'est-à-dire de la singularité. Pour reprendre dans une dimension plus individuelle, parce que Gabriel, tu as reparlé du collectif, je crois qu'il faut qu'on en reparle, parce que c'est plus compliqué, hein, le collectif. C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas là que soi, et puis parce que ça vient surtout solliciter des espaces inconscients à l'intérieur de nous-mêmes qui sont beaucoup plus larges que notre histoire personnelle. Moi, je pense à un échelon individuel, ce qui me semble important, c'est quand même que l'altérité, c'est « il y a un moi à l'intérieur de moi qui n'est pas moi hein. ». Pour reprendre un homme politique il y a un petit peu plus longtemps, il n'était pas vraiment homme politique, il disait « comment peut-on être persan hein ?» Ça, c'était Montesquieu. Et il disait ça aussi, « comment peut-on être persan ?» C'est-à-dire, il disait quelque chose autour d'une altérité radicale, et puis Rimbaud, j'ai un autre, etc. Donc je pense que finalement, c'est à l'intérieur de soi qu'on fait connaissance de l'autre. Et c'est grâce à l'autre qu'on arrive à se connaître soi-même. Donc, il ne s'agit pas de dire l'altérité, c'est génial, surtout dans une radio chrétienne où tout le monde s'aime, et puis il y a un gars qui a donné sa vie pour que vraiment tout le monde s'aime à vie, qu'on doit vivre avec cette idée qu'il y aurait un consensus tout le temps, que l'altérité serait absolument géniale et qu'elle est tout le temps possible. Non, de temps en temps, l'altérité, elle arrive à nos limites. Simplement, il faut penser que cette altérité, c'est ça qui va nous aider le plus à nous révéler à nous-mêmes, c'est-à-dire à nous permettre d'élargir notre champ de conscience. Voilà. C'est comme ce que dit René Char, je répète toujours la même chose, mais tant pis. Quand il dit la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Voilà, la lucidité sur soi-même, c'est toujours l'expérience de sa propre altérité ou de temps en temps de sa propre étrangeté. Voilà, c'est une blessure, c'est une épreuve. Pour reprendre ce que tu disais, c'est un processus, mais c'est un processus qui élargit le champ de conscience et c'est une chance. Donc, du côté de en pratique, hein, pour reprendre ce que tu disais, Gabriel, moi j'aurais envie de dire, gardons précieusement à l'intérieur de nous-mêmes, sans naïveté, que l'altérité, ça, c'est potentiellement une chance. Comme je dis la même chose de la souffrance ça ne sert à rien. Mais si on fait quelque chose de cette souffrance, c'est une puissance d'éveil. Il me semble que l'altérité, c'est la même chose. C'est-à-dire l'altérité pour soi, bah non, de temps en temps, c'est vraiment pénible, voire insupportable. Parce qu'il y a des choses où on ne peut pas arriver à trouver un espace de dialogue ou un espace de vie commune. Mmh. Mais souvent, ça nous élargit.
Oui, moi je réagis simplement à une chose, c'est que je pense que dans une forme d'inconscience légère, et parce que je pense qu'on peut y accéder quand même par un fil, le consensus, quand il n'est plus au rendez-vous, génère des frustrations. L'absence de consensus génère des frustrations. Et on assimile l'absence de consensus...
J'aimais bien ta première formulation, le consensus génère des frustrations.
Ah,
je
oui.
trouve ça très très bien.
Bon, oui, mais là c'est l'approche psychanalytique qui parle. Ce que je porte et ce que je veux dire, c'est que derrière une volonté de consensus qui n'apparaît pas aussi fréquemment et aussi jovialement, on va dire, même si c'est béat, qu'elle le pourrait, il ne faudrait pas que la compréhension soit que le conflit est générateur de violence. La violence, c'est encore autre chose. Pour moi, le point de passage et la représentation peut être limité à ce niveau-là.
Moi, ce que tu dis là, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque la différence entre le désir et la volonté. Et puis, moi, je crois que c'est vrai que probablement le consensus génère des frustrations. L'absence de consensus génère des frustrations. Mais que, moi, je dirais c'est la vie. Parce que, par rapport à ce que tu dis, je crois que on n'est jamais maître, pardon, on n'est jamais maître de nos sentiments. On n'est jamais maître de notre ressenti. On est maître, par rapport à ce que tu disais, de la violence qui va suivre. On est responsable de ce qu'on fait de ses sentiments. Voilà. Donc, quand il y a une altérité, l'autre, j'ai envie de me marier avec lui ou avec elle. Ou quand il y a une altérité, l'autre, j'ai envie de l'étrangler. Bon, ben voilà, on va faire avec ça. Simplement, dans ce qu'on va décider dans nos actes, là, il y a le processus de responsabilité.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on on s'est beaucoup écouté mutuellement. Je pense que les auditeurs auront matière à réagir s'ils le souhaitent, bien sûr, sur dorsalrgc, en minuscule tout collé, @gmail.com. Nous serons très heureux d'avoir leurs avis, leurs réactions que nous pourrons éventuellement réinjecter sur deux prochaines émissions, dont la prochaine qui traitera du thème de l'altruisme dont il a été question durant l'émission. Voilà, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.